Mémoire vive,
présenté par Christelle Le Polothèque
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Christian de Montbrison, dont le témoignage a été enregistré et collecté par l'INA en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ce témoignage est d'ailleurs disponible sur le site ina.fr et au mémorial de la Shoah à Paris. Il faut dire que votre parcours, Christian de Montbrison, est particulièrement riche et mouvementé. Vous l'avez d'ailleurs raconté dans vos mémoires qui sont parues aux éditions de L'Harmattan, Vie d'un homme d'hier, aujourd'hui et juste un peu plus, où vous racontez notamment votre implication dans la création de Kibboutzim en Israël et votre engagement au moment de la guerre des six jours. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement revenir avec vous sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes Christian de Montbrison, né en 1929, d'un père issu d'une longue lignée protestante, tandis que votre mère est une Cain d'Anvers, descendante également des Warshawski. C'est bien ça ?
Exactement. Tout à fait. Ma grand-mère était une Warshawski. Elle a épousé Robert Cain d'Anvers, le fils de Louis Cain d'Anvers, dont on vient d'inaugurer le château de Champs. Il y a eu plus de 10 000 visiteurs. C'est pour montrer l'intérêt de cette restauration. Et je vous invite tous à aller voir le château de Champs, qui est magnifiquement restauré par les monuments nationaux. Et donc le fils aîné de Louis Cain d'Anvers, Robert, mon grand-père, a épousé à la synagogue de la Victoire à Paris, Sonia Warshawski, ma grand-mère, que j'ai très très bien connue, qui a vécu dans la haute bourgeoisie juive de Saint-Pétersbourg, donc très proche de la famille du tsar. Elle voyageait couramment dans le train avec le prêtre, j'ai un trou de mémoire, tout le monde le connaît, l'ami de la tsarine. Et elle avait une mémoire colossale. Elle a été élevée rien qu'avec des professeurs particuliers. C'était vraiment la haute bourgeoisie. Elle n'a jamais connu le shtetl. Elle avait une culture considérable. Elle parlait aussi bien l'allemand, le français, l'anglais, le russe, l'italien, et elle récitait n'importe quel poème de la culture française. Et donc j'ai été enrichi par cette grand-mère merveilleuse qui s'est convertie après la guerre de 14 à l'église anglicane. Elle avait vécu et était morte en Angleterre, mais elle a connu la Shoah, les difficultés de la vie clandestine, et c'est tout à fait miraculeusement qu'elle a échappé à Auschwitz.
Alors, votre père, de l'autre côté, donc du côté protestant, a créé, dans l'entre-deux-guerres, le collège de Quincy-sous-Sénart, destiné tout d'abord aux jeunes filles russes blanches, et qui va, dès 1939, accueillir des enfants juifs par l'intermédiaire de Lozé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'action de votre père ?
Mon père était socialiste, était ouvert à toutes les religions, puisqu'il était un combattant pour l'œcuménie. Et évidemment, comme il est tombé amoureux de la princesse Romanov qu'il a épousée après la guerre, il a voulu l'aider, il a acheté le château de Quincy-sous-Sénart et il a recueilli non seulement les filles réfugiées russes du bolchevisme, mais lorsqu'il y a eu la révolution espagnole, comme il avait des grands amis socialistes espagnols, il a reçu un lot de filles espagnoles qui lui ont été envoyées par la commission Montbrison, parce que ma mère était une des femmes les plus actives dans le sauvetage des réfugiés espagnols. Et donc mon père, et ma mère et mon père vivaient en parfaite intelligence, mon père a reçu une trentaine de filles espagnoles. Et évidemment, elles arrivaient, à peine arrivées, elles sont mises à chanter l'international dans le château de Quincy, où les filles russes qui avaient fui le bolchevisme ne pouvaient que téléphoner à leurs parents en disant que mon père était devenu fou. Et donc, les filles espagnoles sont restées là. Ensuite, mon père a reçu l'appel de l'OSER d'aider la réception d'enfants de Berlin. Et il a reçu 40 garçons qui sont arrivés de Berlin, qui n'ont jamais revu leur famille et qui ont été sauvés par mon père de 39 à 40 à l'arrivée des Allemands. Et c'est une épopée extraordinaire que ces garçons de 6 ans à 17 ans ont raconté dans des lettres qui vont paraître, qui ont commencé à paraître dans le journal de l'Amicale de l'OSER, que vous pourrez lire en vous informant auprès de l'Amicale de l'OSER à Paris. Et mon père, donc, a reçu ces Espagnols, ces réfugiés juifs, qui ont fait hommage à son œuvre en me demandant de le représenter à Washington en l'an 2000, où je suis allé recevoir l'hommage qui a été fait à mon père. Et a été fait aussi aux Quakers et à d'autres organisations qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre. Et les garçons de Quincy ont été sauvés ensuite, miraculeusement, à l'arrivée des Allemands. Ils ont été envoyés au village dans la Creuse, à Chabannes, dont une des filles a fait un film remarquable qui s'appelle « Les enfants de Chabannes » que je vous recommande de voir.
Alors, vous-même, Christian de Montbrison, vous étiez dans une situation particulière puisque vous avez été baptisé, votre mère elle-même s'était convertie au protestantisme. Est-ce que la judaïté était une question pour vous ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert pendant la guerre ?
La judaïté est pour moi absolument essentielle. C'est la base de mes sentiments, de mes forces. Mais je l'ai découvert tout récemment. Récemment, c'est-à-dire j'ai quand même, pendant la guerre, j'ai vu ma mère traversant une rue avec moi en bicyclette, une femme traverser la rue et cracher au visage de ma mère en disant « sale juive ». J'ai été enfant caché au Chambon-sur-Lignon et donc j'ai découvert petit à petit que le judaïsme c'était important, si bien que lorsque mon frère est rentré de la guerre d'Algérie et qu'il était sain et sauf, j'ai demandé à ma mère l'autorisation d'aller en Israël pour découvrir ce que c'était que Israël. Et tout ça parce que j'avais lu le livre Israël de André Chouraki et que l'ayant rencontré immédiatement après cette lecture, nous nous sommes devenus des amis intimes pour la vie. Et donc, à travers André Chouraki et tout ce que j'ai eu comme contact avec lui-même, je suis allé en Israël, et en même temps que lui d'ailleurs, et c'est comme ça que j'ai connu Israël profondément.
Alors, on va revenir en 1942. Vous passez les deux premières années de la guerre à Arcachon, donc en zone occupée, hein, puisque
oui, nous sommes...
vous étiez, la guerre vous a surpris.
La guerre nous a surpris. Notre appartement de Paris était occupé immédiatement par les Allemands, et ravagé d'ailleurs. Mon père a perdu tout ce qu'il y avait dedans. Et d'ailleurs, c'est étonnant comment la mairie de Neuilly a réussi, les collabos des mairies de France ont réussi à cacher à détruire toutes les preuves des vols des Allemands. Enfin, pas partout, mais enfin, pour nous, ça a été évident. Il y avait un rapport complet de l'état des lieux de notre appartement et il a... Pour quelle raison, c'est facile à comprendre, il a été dispersé. Ce qui fait qu'on n'a jamais pu prouver tout ce qu'on a perdu dans l'appartement de Paris. On était donc prisonniers, presque prisonniers au Pila, parce que c'était zone militaire interdite, et nous vivions entre, notre propriété était entre la propriété des Rothschild, immédiatement occupée par le général défendant le sud de la France sud-ouest, qui occupait la maison des Rothschild, mitoyenne de la nôtre, Et de l'autre côté, c'était la propriété des Goldés, les Goldschmidt, les Goldés, riches familles protestantes d'origine juive, qui évidemment étaient occupées par les généraux de la Luftwaffe. Donc nous étions au pire endroit possible, avec une barrière interdisant l'accès à un kilomètre de chez nous. L'accès était interdit, défendu par une sentinelle et une barrière, que nous passions tous les matins en bicyclette pour aller au lycée ou à l'école à Arcachon. Donc nous étions dans la pire situation, avec maman devant porter l'étoile juive dès qu'il y a eu le port de l'étoile juive obligatoire. Entre parenthèses, ma mère l'a portée 24 heures avant tout le monde pour montrer qu'elle n'obéissait pas aux ordres de Pétain. Elle était tellement fière de porter l'étoile juive qu'elle l'a portée un jour avant tous les juifs. Et elle devait se rendre toutes les semaines à la commandantour pour montrer qu'elle était là. Donc elle était prisonnière totale. Et quand nous avons eu l'autorisation de quitter la zone libre grâce aux ordonnances de Pétain qui autorisaient les familles qui avaient de la famille dans la zone libre de rejoindre la zone libre.
Pour les vacances.
Notre mère nous a profité pour nous faire s'échapper. Et je dois dire qu'elle nous a réunis pour nous dire au revoir. Un au revoir qu'on ne se rendait pas compte ce qu'elle pouvait éprouver. Parce que elle pensait ne jamais plus me revoir. Et donc, elle a écrit une lettre à chacun de nous. Et c'était tellement émouvant. Enfin, on a trouvé cette lettre après sa mort. Et
une lettre qu'elle vous avait écrite à ce moment-là.
Elle a écrit une lettre qu'on a retrouvée après sa mort dans un de ses tiroirs, une lettre où elle s'adressait à chacun de nous séparément, comme si elle ne revenait plus.
Est-ce que vous aviez conscience de ce danger, dont votre mère avait évidemment conscience? Est-ce que vous, enfant, vous...
Non, on a simplement été choqués. Un de nos grands frères est venu de la zone libre pour participer au championnat à Bordeaux de l'athlétisme. Et selon les lois de Vichy, ma mère n'a pas été autorisée à rentrer dans le stade. Donc je suis resté avec elle à l'hôtel. Et elle n'a pas pu applaudir aux prouesses de son fils. Voilà. Donc là, on a senti qu'elle n'avait pas le droit de s'asseoir dans les autobus. On a bien compris qu'on était des parias, que notre mère était un paria. Et donc c'était, mais on était trop protestants. Mon père était le président de l'église protestante d'Arcachon. On allait tous les dimanches au temple avec les officiers allemands protestants qui étaient là. On résistait parce que ma mère, chaque 14 juillet, sur invitation de résister de De Gaulle, je ne sais même pas si c'était une demande de De Gaulle, mais je sais que ma mère a décidé tous les 14 juillet de nous habiller tous en bleu, blanc, rouge. Et dans toutes les villes où nous étions pendant toute la guerre au 14 juillet, y compris à Auch, le 14 juillet 1944, où les Allemands étaient... il y avait eu le débarquement, les Allemands étaient très très nerveux. Malgré ça, on ne savait pas si on allait être libérés. C'était le 14 juillet, on a été libérés que le 18 août. Mais le 14 juillet 1944, comme les autres années, les Montbrisons, ma mère avec ses quatre enfants, nous défilions en bicyclette, ordre de notre mère, tous habillés en bleu, blanc, rouge. Ce qui était quand même un acte de résistance, je crois, assez unique en France.
Votre mère, vous le disiez tout à l'heure, était donc parfaitement consciente de la menace et a raison, puisque vos noms vont figurer sur la liste de Papon. C'est elle qui décide de vous envoyer au Chambon-sur-Lignon?
Ce sont la famille Monod, qui était très proche de nous, nous a donné à ma mère ce conseil. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ma mère, dont la sœur était en Angleterre, et qui avait rapatrié ses enfants à temps en Angleterre, ma mère a reçu quand même la visite de Ian Fleming, qui avait été envoyé par Churchill pour sauver à Bordeaux les Anglais qui étaient attrapés dans la nasse de Bordeaux. Et donc Ian Fleming, qui connaissait très bien ma mère et surtout sa sœur, qui avait mission de Churchill de venir à Bordeaux. Il savait que nous étions qu'à 60 km. Il a pris une voiture. Il est venu de toute urgence voir ma mère avec la lettre de sa sœur lui disant « Viens, ne reste pas là. Tu connais Hitler. Tu sais ce qui t'attend, toi et tes enfants. » Et malgré ça, ma mère était tellement républicaine, tellement française qu'elle a décidé de ne pas s'échapper. Elle a dit « Je ne peux pas laisser mon pays dans le danger où il est. » Et c'est héroïquement qu'elle a accepté, qu'elle a refusé l'accueil de Fleming, qui avait un croiseur au large de Bordeaux, prêt à nous emmener tous, toute la famille. Et donc ma mère est restée non seulement avec ses enfants, mais avec sa mère et sa tante.
C'est ça.
Et donc la mère et la tante, qui étaient des Russes juives, avec l'accent
vous
russe maximum,
avec un accent très difficile,
elles ont été, et qui étaient âgées, elles sont restées dans la nasse avec nous, et c'est miraculeux que, heureusement, qu'ils ont tous été sauvés.
Donc, là, en 1942, vous êtes inscrit au collège Cévenol avec vos sœurs et votre frère, c'est ça ?
Exactement.
Vous allez passer combien de temps là-bas ? Deux années ?
On arrive en 1942, et sans le savoir, nous sommes, mon frère et moi, dans la maison du chef de la résistance, M. Hérault, qui était le chef de la résistance, et dont la maison était en face d'une grande maison où étaient les troupes allemandes qui venaient pour le repos dans la montagne.
Ah oui.
Et donc nous étions juste en face de leur maison, on les voyait facilement sortant de l'agent. Et donc nous avons vécu l'épopée du Chambon-sur-Lignon, où j'ai appris le courage, la résistance, l'espérance, la tikva. Nous avions tous les mardis, d'ailleurs on ne savait pas qu'il y avait tant de juifs parmi nous. C'était tous
vous-même, vous ne le saviez pas.
Personne ne savait. Et les juifs qui étaient cachés dans nos maisons, d'ailleurs, personne de nous ne parlait des épreuves qu'on avait vécues. Jamais nous ne parlions entre nous. Nous ne savions pas, les garçons de nos âges, sauf que on a été obligé de quitter la maison de Hérault parce qu'il y avait trop d'enfants qui avaient 12, 13, 8, 9, 10, 13 ans et qui faisaient pipi au lit. Alors ça sentait si mauvais dans la chambre et tout ça qu'on a demandé à notre mère de changer de maison. Et donc, on vivait tellement mal, on avait si peu à manger, on n'avait que 20, 25 grammes de pain par jour, par personne. Et ma mère, comme nous étions à la campagne, au château de famille, ma mère achetait des poulets, on les faisait cuire, elle nous envoyait des poulets tout cuits dans des boîtes avec de la sciure, et on partageait nos poulets toutes les semaines, on recevait un poulet tous les 15 jours, et on partageait le poulet dans la chambre, mais on gardait les os et on mangeait les os, on mangeait les os. C'était incroyable ce qu'on avait faim. Et donc, on a appris comme ça. C'était beau parce que les chants protestants, les psaumes, qui sont tous des psaumes de l'Ancien Testament, ils sont tellement des chants d'espérance et de courage que tous les mardis, on avait le culte avant la classe. Et il y avait des tas de juifs, j'ai plein d'amis juifs à Paris qui étaient avec nous au Chambon, plein, j'en ai encore quelques-uns, et qui savent aussi bien que moi les paroles des cantiques protestants, qui sont des psaumes. Mmh. C'est très très beau, c'est une des choses qui m'a ramené naturellement vers Jérusalem, vers Israël. C'est parce que j'ai connu le Chambon, parce qu'il y a eu cette vie protestante, tout à fait juive, tout à fait israélienne, je pourrais dire, que c'était tout naturel pour moi, arrivant en Israël, de me sentir... D'ailleurs, beaucoup de chants israéliens sont des chants protestants. C'est des chants des scouts protestants que nous chantions tous. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence.
C'est là que vous avez rencontré notamment le pasteur Trocmé.
J'ai rencontré le pasteur Trocmé, qui avait une aura incontestable, mais qui n'était de loin pas le seul pasteur du Chambon. Mm-hmm. J'étais avec le pasteur Poivre dans la maison du pasteur Poivre, mais je trouve, d'ailleurs, quand je suis allé à Jérusalem la première fois, à Yad Vashem, j'ai insisté pour qu'on enlève l'auréole unique au pasteur Trocmé, pour ne dire qu'il n'était pas le seul, et que l'auréole doit être portée sur le nom de Daniel Trocmé, son cousin, son neveu, qui lui s'est conduit comme un héros, comme un juste par-dessus les justes. Et donc c'est la première place dans le Chambon-Solignon à Yad Vashem, la première place à donner, c'est à Daniel Trocmé. D'ailleurs, une maison Daniel Trocmé va être créée à Jérusalem par l'organisation Nekba.
Vous nous le disiez, les conditions de vie pour des jeunes enfants au Chambon n'étaient pas forcément très, très bonnes. Vous souffriez notamment de la faim, du froid aussi, j'imagine. En février 1944, vous devez quitter le Chambon pour des raisons de santé, c'est ça ?
Exactement, oui, j'étais trop faible. D'ailleurs, un des garçons dans la maison Poivre, un des garçons est mort de diphtérie. Donc j'ai connu le premier cadavre d'un jeune garçon dans ma vie, c'était à 13-14 ans au Chambon-Solignon.
On a l'impression, en lisant votre livre, que c'est à ce moment-là que les choses commencent à se précipiter pour vous. C'est-à-dire que le trajet que vous devez faire dans le train, dans un état absolument catastrophique, pour rejoindre votre famille, est absolument épique. Et puis surtout, vous arrivez donc au château de Saint-Roch, et votre famille, et le 21 mars, c'est-à-dire quelques jours après votre arrivée, les Allemands font irruption dans le château.
Oui, sur dénonciation du village... pour de l'argent et par jalousie, parce qu'on avait découvert...
C'est un château de famille.
C'est un château de famille depuis 1735. C'est la famille Montbrison. C'est le dernier fief. Nous étions sur plusieurs fiefs dans le Lot-et-Garonne. Et notre nom est un tiroir, comme on dit. Et c'est le dernier nom de notre famille, de Montbrison, dont il y a la Montbrison, c'est la terre, c'est le nom de la terre du château de Saint-Roch et du château de Montbrison, et sur les terres de Montbrison qui appartenaient à l'église et qui ont été vendues pour acheter la liberté du roi François Ier, qui était fait prisonnier et qu'il a fallu que l'église vende ses biens pour payer la rançon du rachat de François Ier. Et une des rançons provient de la vente des terres. Et c'est comme ça que les terres étant devenues civiles, non plus religieuses, de main en main sont passées ensuite à notre famille. Et c'était un très grand domaine qui aujourd'hui est réduit à rien du tout, puisque j'étais le dernier possesseur des terres du château de Montbrison, et ça a été vendu à un Américain. Et aujourd'hui, le château de Montbrison est entre les mains de Norvégiens merveilleux. Je suis toujours invité là, chez eux. Mais le château de Saint-Roch dont je parle, qui était le château de la branche cadette dont je fais partie, a été haché récemment par les Russes et appartient aux Russes aujourd'hui.
Ah ben ça...
On ne peut plus pénétrer.
Donc
c'est dans ce château que, un matin, j'ai été réveillé à 6h du matin par les troupes allemandes qui entouraient le château, et revolver dans le dos, mon jeune frère de 12 ans a dû faire la perquisition du bas du château, et moi le premier étage jusqu'au grenier, revolver dans le dos. Et ça, c'est extrêmement impressionnant, puisque nous ne savions pas si notre père, qui était dans la résistance et qu'on ne voyait pratiquement jamais, était arrivé dans la nuit, était caché dans une chambre. Et chaque fois qu'on ouvrait une chambre, je pensais que j'allais me trouver face à mon père et le voir descendre en face de moi par les Allemands. Et quand j'ai dû visiter le grenier contre mon gré, en me disant « sûrement mon père est caché au grenier, j'aurais jamais cru qu'il allait monter jusque-là », j'ai comme il ne parlait pas le français, c'était des braves soldats allemands, mais qui avaient aussi peur que moi, puisque je sentais le revolver bouger sur mon dos, et ils étaient inquiets comme tout, ils étaient trois, Et j'ai, dès qu'ils ont ouvert la trappe pour le grenier, j'ai commencé à crier. À quoi ça sert de me chercher ici? Mon père n'est sûrement pas là. C'est pas à trois que vous allez faire. Je parlais à haute voix pour que mon père sache qu'ils étaient que trois et qu'ils pouvaient encore les tuer ou n'importe quoi. Et, enfin, bref. J'ai eu très très peur ce jour-là et je ne sais pas plus, je sais pas que j'y pense, ça me donne des frissons. Mais enfin, c'était quand même étonnant de voir quand devant une, ils ouvraient une armoire et au moment où ils ouvrent une armoire du château, c'était l'armoire dans laquelle mon père avait mis tous ses uniformes de la guerre de 14.
Ah oui.
Et au moment où ils ouvrent l'armoire, et j'étais en face de l'armoire, passe un l'officier qui commandait les choses. Il a vu les costumes d'officiers de la guerre de 14. Il s'est mis au garde à vous et il a fait le salut à Hitler. C'est quand même extraordinaire. C'est pour vous dire.
Tout à fait inattendu.
C'est oui.
Mais ces Allemands venaient chercher en fait votre père qui était résistant. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que vous étiez juif. À chaque fois, vous
non,
êtes,
non,
vous
il, avez... savait, il savait, il savait que ma mère était juive. Il leur avait
et
dit.
Et votre mère n'était pas là.
Ma mère n'était pas là. Miraculeusement, ma mère devait rentrer la veille au soir. Elle a changé d'avis à la dernière minute. C'est comme ça qu'il doit y avoir des anges gardiens au-dessus de nos têtes qui nous disent au moment où elle devait rentrer. Nous l'avons attendue jusqu'à 11h du soir. Et puis elle n'était pas venue. Alors on a fermé à clé le château. Et pour rentrer dans le château, les Allemands ont fait sauter la porte de la cuisine et la porte principale du château, ce qui a énormément impressionné l'enfant que j'étais. Et ça a fait un bruit énorme. Mais ma mère, au moment de descendre, l'ange lui a dit « Mais à quoi ça sert d'aller trouver les garçons? Ils sont tranquilles au château. » Elle a changé d'avis in extremis avant que le train ne reparte. Elle a remis sa bicyclette dans le train. Elle est allée voir sa tante qui était cachée en Dordogne. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie et nous a sauvé à tous la vie. C'est d'avoir changé d'avis à la dernière minute puisque le lendemain matin, à 6h du matin, les Allemands étaient là. Et on avait caché une brave dame polonaise qui avait reçu, qui avait été cachée une semaine avant dans une maison où ils avaient passé la baïonnette à travers un panier en osier dans lequel elle était. Et le baïonnette l'avait échappé, elle n'avait pas été touchée. Elle était restée silencieuse, mais elle était tellement terrorisée qu'elle était dans la cuisine. Et ils sont passés devant elle. En fait, c'est une longue histoire. Je ne vais pas vous raconter mon livre.
C'est une longue histoire. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à la retrouver dans votre livre. Donc, Vie d'un homme d'hier, aujourd'hui et juste un peu plus. Merci, Christian de Montbrison, d'être venu avec nous.
C'était un grand plaisir. Je vous remercie infiniment. C'était un plaisir de vous rencontrer et de parler de mon livre.
Merci à vous. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.